Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vivant l'émission, un programme consacré à l'actualité et aux initiatives pour la transition écologique et sociale dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Une émission préparée par la rédaction de Vivant Le Média et diffusée chaque premier vendredi du mois sur les ondes de nos radios partenaires. Radio Pulsar à Poitiers, Radio Agora à Montmorillon, Radio Gâtine à Parthenay et aux ondes à Châtellerault. Comment relocaliser l'alimentation et proposer à la restauration scolaire des produits bio et ultra-locaux ? Dans notre séquence reportage, on met le cap sur Pont, en Charente-Maritime. La ville y a fait le choix radical de créer sa propre ferme. Une ferme de 1000 m² de surface, cultivée en maraîchage sur sol vivant, où on fait pousser une cinquantaine de variétés de légumes. Elle approvisionne directement les cantines de l'école primaire, de l'école maternelle et de la crèche. Chaque jour, ce sont donc environ 350 repas qui sont préparés dans les cuisines de la commune. Un reportage de Vivant Le Média réalisé par Pauline et Léa, élèves de la filière gestion des pollutions et protection de l'environnement au lycée Émile Combes à Pont. On écoute Jérôme Ellis, responsable technique de la ferme communale.
L'année dernière, on a sorti 3 tonnes de légumes, en sachant qu'on a juste 2 ans de vie et qu'il fallait tout mettre en place au départ. Donc on a augmenté de 1 tonne, 2 tonnes et 3 tonnes, voilà, d'année en année. Et cette année, j'espère beaucoup plus.
Et est-ce que cela couvre les besoins de l'école ?
Pas encore, justement. L'objectif, c'est d'arriver au 100% un jour. On a une commune qui a fait ça il y a presque 15 ans maintenant, dans le sud de la France, qui est un peu la pionnière en France, qui a fait ça, et à l'initiative des élus aussi. Et ils ont mis 10 ans pour y arriver. Donc, je suis dans les temps.
Quelle méthode de production utilisez-vous ?
Alors, c'est une méthode qui est assez jeune, assez récente, mais qui fait ses preuves. Ça s'appelle le maraîchage sur sol vivant. Le principe est assez simple, si on ne rentre pas trop dans la technique, c'est de nourrir le sol, qui lui va nourrir les plantes.
Et pourquoi ?
Par conviction, d'abord, et parce que c'est une méthode qui régénère les sols, qui retient l'eau, qui favorise la vie du sol, du coup, et la biodiversité, voilà. Et qui, a priori, ça reste encore à démontrer, mais qui produit des aliments beaucoup plus sains.
Ce paillage-là, il a été mis il n'y a pas si longtemps. Donc là, il est assez neuf. Et si on gratte un peu, en tout cas, là, le sol est de plus en plus grumeleux. Et on voit que la terre a complètement changé. Je ne sais pas si je vais pouvoir aller plus bas, parce qu'après, ça devient un peu plus dur. Donc ça, c'est le résultat de 2 ans. Et ça, c'est la terre d'origine, qui a déjà été modifiée.
Quel lien vous avez avec l'école ?
Alors, on a un lien super important, parce que je lui fournis des légumes. On s'est mis d'accord avec le cuisinier, Nicolas Petit, qui prend tous les légumes qui sont à maturité. Je l'appelle pour lui dire, voilà, j'ai tel type de légumes, est-ce que ça t'intéresse ? Et lui, en fonction, il fait ses menus. Donc pour moi, c'est un confort énorme, et pas pour lui, mais du coup, voilà, à terme, on essaye de pouvoir évaluer les quantités, évaluer ses besoins, évaluer aussi la qualité de lavage des légumes, etc. Pour que lui ait moins de travail derrière et que tout le monde s'y retrouve, quoi, tout simplement.
Bonjour, je m'appelle Nicolas Petit, je suis cuisinier sur l'école de primaire, élémentaire et maternelle, de Pont.
Combien préparez-vous de repas par jour ?
On a à peu près 210 élèves sur l'école élémentaire, une centaine d'élèves sur l'école maternelle. Et on va également s'occuper de la crèche où il y a une trentaine, 20 à 30 petits.
Qu'est-ce que ça change dans la conception des menus d'être fournis par la ferme communale ?
Ça change au niveau fraîcheur, qualité et connaissance des produits, car on amène directement des aromatiques ou des légumes directement sur les tables des élèves, nettoyés bien sûr, mais ils ont aussi cet échange d'aller directement à la ferme avec Julien.
Est-ce que ça demande de vous adapter ?
Sur les menus, déjà en premier, oui, avec Julien on a vu pas mal de choses. Moi je mets des intitulés genre poêlée de légumes ou soupe de la ferme, ou des choses comme ça. Comme ça, moi ça me permet déjà de mettre au courant les parents d'élèves, de savoir ce que les enfants mangent. Et après au niveau des quantités et tout ça, moi je m'adapte. On mélange. Le poêlé de légumes, on peut mélanger tous les légumes, on peut mettre un peu de féculents, un peu de pommes de terre, etc. Bah nous, on fait un travail, je vais vous dire, on fait un travail avec Julien, au niveau par exemple des aromatiques. Là, j'ai des feuilles de rhubarbe qui sont un peu plus grandes que les enfants. Hier, je leur ai amené dans le self, je les ai lavés grossièrement, on les a amenés dans le self, puis on a rigolé avec tous les enfants, je leur ai fait sentir. Je leur ai mis à côté d'eux quand ils étaient debout, et ils ont vu que c'était un peu plus haut qu'eux, que la feuille était énorme. Puis la rhubarbe, ça reste encore un produit de saison, et la semaine prochaine, je vais leur faire un gâteau avec.
Vous essayez donc de montrer le produit brut aux élèves pour qu'ils puissent découvrir quel légume c'est ?
Oui, on essaye avec Julien de refaire ce lien. En fait, comme je vous dis que les enfants vont au maximum à la ferme communale, ils descendent, eux, ils font des plantations, ils font des coupes d'aromatiques, ils ramassent des légumes tout simplement. Et là, on a un projet avec Julien de leur donner un panier et qu'ils me remontent un panier. Chaque jour, ici, comme ça, ils vont bien voir le lien, eux, ils vont le voir tout de suite. Ça va se faire naturellement.
Est-ce que c'est une pratique répandue pour les communes de produire les légumes pour leurs écoles ?
Alors, pas encore assez à mon goût.
Julien et Lys.
C'est vrai que c'est pour moi, c'est une pratique d'avenir. Ce qui a fait un petit peu tilt dans la tête de pas mal de dirigeants, c'est le Covid, où on s'est aperçu que si la chaîne d'approvisionnement est cassée, il n'y a plus rien qui tient, quoi. Et localement, est-ce qu'on est capable de produire nous-mêmes, pour nous-mêmes ? La réponse aujourd'hui, elle est non. Donc, d'où l'idée de créer cette régie, en tout cas en faveur des enfants déjà en premier lieu, et puis après on verra à l'avenir. Mais depuis qu'on a mis ça en place, on a eu pas mal de visites d'autres mairies, d'autres villages, d'autres communes, qui sont venus voir un petit peu comment ça marchait ici, et qui semblent en tout cas très intéressés pour aller dans cette démarche-là. Sous diverses formes, c'est pas forcément en régie, ça peut être en aidant aussi un maraîcher à s'installer, en lui proposant des terres, en lui enlevant un petit peu de paperasse administrative, parce que c'est compliqué aussi de ce côté-là. Et voilà, au niveau des communes avoisinantes et puis de la communauté de communes, je sais qu'il y a une réflexion qui est en cours sur comment on peut faire pour accueillir d'autres maraîchers, les installer, les pérenniser, leur assurer pas forcément un revenu, mais en tout cas un débouché. Sur leur production. Et j'espère que ça va se développer, quoi, parce qu'il est temps.
Place maintenant à notre chronique d'actualité. Vous en avez forcément entendu parler, le 24 novembre s'est achevée la COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan. La COP, ou Conférence des parties, c'est le rendez-vous mondial annuel des Nations Unies pour le climat. Un sommet dont les 197 États membres prennent des décisions majeures pour agir envers le climat. Ou plutôt, pour éviter de ne pas trop avoir à en faire. Car oui, cette COP a été un véritable fiasco. Un échec pourtant prédictible. Puisqu'avant même qu'elle ne débute, cette COP29 ne fleurait pas très bon. Elle avait même un fort parfum de pétrole, disons. Pour cause, avant de prendre ses fonctions, Mukhtar Babayev, président de la COP et ministre de l'Environnement azerbaïdjanais, a fait carrière dans une grande compagnie pétrolière. Aucun risque de conflit d'intérêts, bien sûr. Surtout quand le président de ce même pays, Ilham Aliyev, déclare à l'ouverture de l'événement que les hydrocarbures sont, je cite, « des dons de Dieu ». Un paradoxe absolu, mais malheureusement loin d'être unique. Et oui, l'année dernière, le président de la COP28 aux Émirats était également PDG de la Compagnie nationale pétrolière du pays. Les combustibles fossiles sont responsables de presque 3/4 des émissions mondiales de CO2, mais ça ce n'est qu'un détail. Un détail aussi, la présence du lobby des énergies fossiles à l'événement. La coalition d'ONG Kick Big Polluters Out a recensé 1770 lobbyistes pro-hydrocarbures à la COP. Un groupe plus nombreux que n'importe quelle délégation nationale, à l'exception de celle de l'Azerbaïdjan, du Brésil et de la Turquie. Rendez-vous compte, si on additionnait les délégations des 10 pays les plus vulnérables face au changement climatique, on n'atteindrait même pas ce seuil. Bon, vous l'aurez compris, dans ce contexte, impossible de parler sérieusement de la transition nécessaire vers un système moins dépendant des énergies fossiles. L'accord final n'en fait d'ailleurs aucune mention explicite. La faute au blocage opéré par plusieurs puissances pétrolières, dont l'Arabie Saoudite. Mais alors, que doit-on retenir de cette COP ? Eh bien, après de longs pourparlers, le résultat a fini par tomber. Une aide de 300 milliards de dollars annuels sera mise en place à partir de 2035. Elle sera destinée aux pays les plus vulnérables pour les aider à affronter la crise climatique. Oui, les pays dits du sud global sont ceux qui souffrent le plus des conséquences du dérèglement climatique, alors qu'ils y ont le moins contribué. Problème, cet accord de 300 milliards a suscité beaucoup de colère de la part des ONG et des pays dits en développement. En effet, la somme est 5 fois inférieure à celle recommandée par un consensus d'experts. Le texte a même été qualifié d'insulte et accusé de perpétrer une forme de néocolonialisme. Cédric Schuster, représentant d'un groupe de petits États insulaires, en a fait une critique éloquente. Je le cite. « Après la fin de la COP29, nous ne pourrons pas nous contenter de naviguer vers le coucher du soleil, car nous sommes littéralement en train de couler. Nous sommes littéralement en train de couler. » Et le naufrage de cette COP29 fait écho à celui de la COP16 pour la biodiversité, qui s'est tenue en Colombie quelques jours avant. Les États y ont échoué à trouver un accord sur le financement de la feuille de route que l'humanité s'est fixée pour stopper la destruction de la nature d'ici 2030. La COP30, prévue au Brésil en 2025, devra donc non seulement regagner la confiance des nations vulnérables, mais aussi démontrer une réelle volonté d'action commune. Faute de quoi, ces sommets risquent d'atteindre des sommets d'absurdité et perdre définitivement leur crédibilité. Et tout de suite, en bref, un petit tour de l'actualité de la transition écologique et sociale. Et si vous tiriez les cartes pour découvrir l'avenir du Marais Poitevin ? Le 8 décembre, de 14h à 17h, la Confédération Paysanne des Deux-Sèvres organise son spectacle annuel à Secondigny. Dans la pièce intitulée « Le tarot du Marais Poitevin », écoutez une diseuse de bonne aventure vous révéler le dessous des cartes du territoire. Au programme, une réflexion sur ce que signifie « habiter ». Pour participer à cette consultation tantôt sérieuse, tantôt extravagante, vous pouvez prendre vos places sur le Hello Asso de la Confédération Paysanne du 79 ou par téléphone au 06 64 76 00 00. Envie de découvrir des solutions concrètes pour la transition écologique ? Le 10 décembre aura lieu le Forum des solutions pour le climat, au centre de conférences de Poitiers. Les participants pourront arpenter le village des solutions, un espace regroupant plusieurs initiatives et dispositifs d'accompagnement du territoire. L'occasion d'échanger avec des acteurs engagés et de réfléchir à l'évolution de sa propre structure. Vous pouvez aussi participer à deux ateliers sur l'éco-conception et l'écologie industrielle et territoriale. Inscription et plus d'informations sur forum-6solutions-climat.com. Besoin d'un coup de pouce pour survivre au sexisme pendant les fêtes de famille ? Une permanence de prévention et d'information aura lieu à ce sujet le mercredi 21 décembre de 10h30 à 13h au Bétalab de Mel dans les Deux-Sèvres. Un événement organisé par l'association Bouillonnant et Bouillonnante, le nom est écrit en inclusive. Le but de cette association, c'est de renforcer les liens sociaux et l'émancipation des personnes LGBTQIA+, tout en luttant contre les discriminations. Lors de cette permanence, les visiteurs et visiteuses pourront s'informer sur diverses thématiques comme le féminisme, la prévention ou la transidentité grâce à des ressources variées. L'événement est organisé en collaboration avec le planning familial des Deux-Sèvres et l'entrée est libre et ouverte à toutes et tous. Et c'est déjà la fin de Vivant l'émission. Une proposition de la rédaction de Vivant le Média, service de presse en ligne dédié aux actualités et initiatives pour la transition écologique et sociale dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez tous nos reportages et interviews, écrits et radio, sur vivant-le-media.fr. Et si vous souhaitez nous contacter pour nous faire parvenir des infos et actualités en lien avec notre ligne éditoriale, voici l'adresse mail où nous écrire contact@vivant-le-media.fr. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le vendredi 10 janvier pour une prochaine émission. Et d'ici là, prenez soin de vous et de la planète.